Une évolution du dispositif de sécurisation à Saint-Louis. Il n'y a plus de poste de garde au verrou sur la RP1. Les gendarmes sont désormais en patrouille mobile pour continuer de veiller à la sécurité des automobilistes. En Australie, des incendies de forêt continuent de ravager plusieurs régions de l'état du Victoria. Sur place, la situation est hors de contrôle et pire que la terrible saison des feux de forêt de 2019-2020. Deux motions de censure déposées à l'Assemblée nationale par le Rassemblement national et la France insoumise. L'exécutif prépare les esprits non pas à la censure, mais à une dissolution de l'Assemblée nationale. Des manifestations pour le 13e jour de suite dans les villes d'Iran. Le peuple continue de descendre dans les rues pour réclamer le départ du régime des mollahs. Et puis le sport avec la finale du BNC Tennis Open sur les cours du Wentoro. Le métropolitain Arthur Géa rencontre en ce moment même l'Autrichien Rodionov. Le Français a remporté la première manche. Bonsoir, excellent week-end et soyez les bienvenus dans ce journal. Le Haut Commissariat apporte des précisions sur l'évolution du dispositif de sécurité mis en place à Saint-Louis. Il n'y a pas d'allègement, les objectifs d'ordre public et les effectifs déployés restent inchangés, précisent les services de l'État. La municipalité du Mont-d'Or a en effet indiqué que cette évolution des moyens déployés sur place était effective depuis ce matin. Les postes de garde physique qui étaient installés depuis les émeutes de mai 2024 au verrou nord et sud de la RP1 ont été retirés. Les gendarmes restent toutefois déployés sur des patrouilles mobiles aux abords de la tribu de Saint-Louis. L'objectif est aussi d'interpeller rapidement les auteurs de troubles à l'ordre public. Ces adaptations du dispositif opérationnel ont été validées par le haut-commissaire. La décision a été prise en concertation avec la municipalité du Mont-d'Or et la gendarmerie. Ce redéploiement des forces de l'ordre dans un secteur sensible a suscité des réactions. Le parti Génération Mont-d'Or a fait part par voie de communiqué de sa désapprobation vis-à-vis de cette décision. Rappelons que la nuit dernière, un nouveau fait de caillassage sur des gendarmes s'était produit sur la zone. Nina Juillet pour Génération Mont-d'Or déclare encore, et je cite, « Dans l'attente d'un apaisement réel et de garanties concrètes pour les automobilistes, nous demandons que les verrous soient remis en place ». Fin de citation. Au chapitre des faits divers, cette tentative de cambriolage dans une habitation, ça s'est passé à Poindimier la nuit dernière aux alentours d'une heure du matin. Le résident a été surpris par des bruits et a découvert des individus entrés par effraction dans son logement. Ils ont pris la fuite mais ont utilisé du gaz lacrymogène sur le propriétaire des lieux qui tentait de les stopper. Si vous pensiez passer votre week-end à faire bronzette sur la plage ou au soleil, eh bien, c'est manqué. Le temps parfois couvert, parfois pluvieux de cette journée de samedi va se poursuivre dans les heures qui viennent. Écoutez, Lionel Divoul, il est prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa.
La journée d'aujourd'hui, le temps a été bien instable, particulièrement sur la pointe sud de la Grande Terre, avec le passage d'orages. Et entre la soirée d'hier et jusqu'à cet après-midi, entre Goro et Yaté, on a enregistré quasiment 90 mm de pluie. Un peu à l'image d'aujourd'hui, on conserve demain un temps qui reste chaud, humide, instable, avec des averses potentiellement orageuses qui se déclenchent essentiellement sur la façade est, ainsi qu'aux pointes nord et sud de la Grande Terre, et dans une moindre mesure au Loyauté. En ce qui concerne la côte ouest, elle bénéficie d'un temps qui sera généralement plus sec, voire même de quelques éclaircies.
Et le temps qui devrait encore se dégrader la semaine prochaine, puisqu'une dépression est annoncée, on retrouve Lionel Divoul.
Pour la semaine prochaine, il y a effectivement de fortes chances qu'une dépression se dirige vers le nord de la Grande Terre, mais pour l'instant, ça reste en suspens et je préfère ne pas m'étendre dessus.
Des propos recueillis cet après-midi par Kalinda Boicou et Météo Complète, je vous le rappelle, à la fin de ce journal. À Farino, la place de la mairie accueillera demain le premier marché de mamie de l'année. Les visiteurs trouveront sur place, de 8h à midi, des produits locaux dans une ambiance évidemment toujours aussi conviviale. Les précisions de Ghislaine Arly, responsable du marché de mamie.
Il y aura les produits de saison, bien sûr. Ce marché sera sous le signe des vacances. Et des flamboyants qui sont encore en fleurs, donc il fait bon flâner, venir de ce côté-là où il fait frais, parce qu'il fait très chaud ailleurs. Donc à Farino, on a la chance d'avoir vraiment un microclimat. Donc venir prendre le frais et puis se promener, éventuellement passer déjeuner avec nous, puisqu'on a un petit coin food court, où on peut donc goûter aux plats qui sont préparés par nos restaurateurs, les plats du pays généralement, des plats bien calédoniens. et surtout à un prix très compétitif, donc des plats s'il y a des enfants et tout, donc ça fait pas cher de venir casser la croûte au marché de Farino. Et puis alors au niveau des produits, ben il nous reste beaucoup de mangue en ce moment, hein. Il y a de la pastèque même, des ananas, beaucoup d'ananas. Et puis ben les produits habituels, hein, on a toujours nos produits transformés locaux avec les confitures, les hachards, les sirops. Et puis après, toute une gamme de produits vivriers, de l'artisanat. On a un petit coin artisanat qui se réétoffe doucement.
Et le premier marché de mamie de l'année 2026, c'est donc demain de 8h à midi sur la place de la mairie à Farino. Et puis autre idée de sortie pour votre journée de dimanche à Dimbéa, le parc Fayard accueillera demain de 6h à midi à la fois un marché de producteurs mais aussi un vide-grenier. L'actualité dans la région Pacifique, en Australie, des incendies continuent de ravager plusieurs régions de l'état du Victoria où la situation a été qualifiée de plus grave que ce que l'on appelle en Australie l'été noir. C'était entre 2019 et 2020. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
La première ministre du Victoria, Jacinta Allan, a indiqué en conférence de presse que 300 000 hectares de végétation, de même que 130 bâtiments, dont des dizaines de maisons ont déjà été la proie des flammes. Il ne reste pratiquement rien de certains petits villages où la dévastation est totale. Des troupeaux de bovins, des terres cultivées et des vignobles ont été fortement touchés, voire détruits, tandis que 10 000 hectares de plantations de pin ont été carbonisés. Face à la gravité du désastre, l'armée va être mise à contribution. Le directeur de la police du Victoria, le commissaire Mark Bush, a confirmé quant à lui que les trois personnes dont on était sans nouvelles depuis avoir été aperçues vivantes pour la dernière fois devant leur maison ont été retrouvées saines et sauves. Leur habitation, comme beaucoup d'autres, a toutefois été détruite. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 17h53, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Savez-vous que vous pouvez acheter malin grâce aux étiquettes énergie de vos appareils ? Les classes vous donnent également une idée de la consommation électrique et en eau par an, en plus d'autres informations utiles comme la capacité en kilos de vos appareils.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Deux motions de censure déposées ces dernières heures à l'Assemblée nationale, l'une par le Rassemblement national, l'autre par la France insoumise. Cela fait suite au feu vert de l'Union européenne au Mercosur contre l'avis de la France. Une chute du gouvernement est donc très probable à l'issue des débats budgétaires qui ont pu reprendre à l'Assemblée. L'exécutif prend ses menaces de censure très au sérieux et prépare déjà les esprits à une nouvelle, non pas censure, mais à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Dans une lettre, Sébastien Lecornu demande à Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, de préparer d'éventuelles élections législatives le 15 et 22 mars prochain, soit le même jour que les élections municipales. Emmanuel Macron voudrait éviter cette hypothèse à tout prix, mais le gouvernement pourrait bien être renversé dans les prochaines semaines. Le premier risque, c'est le Mercosur. Le Rassemblement National et la France Insoumise ont annoncé déposer une motion de censure contre Sébastien Lecornu après la signature du traité. Si les socialistes décident de soutenir cette motion, le Premier ministre sera renversé. Le deuxième risque, c'est le budget. Sébastien Lecornu devrait déclencher le 49-3 dans les jours à venir, avec en réponse une nouvelle motion de censure. Là encore, ce seront les socialistes qui feront pencher la balance. Et pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé avec Olivier Faure. Alors, cette menace de dissolution vient surtout mettre la pression sur le Parti socialiste, en grande difficulté dans les sondages.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Les deux motions de censure ont donc été déposées. déposé après le feu vert de l'Union européenne au traité du Mercosur lors d'un vote à Bruxelles. C'était cette nuit pour nous. Un revers qui était attendu, mais qui est très violent pour les agriculteurs qui sont mobilisés depuis plusieurs mois maintenant contre cet accord de libre-échange.
On savait que ça allait venir.
Je suis triste, très triste, vraiment. Déçu. Je suis abattue depuis que j'ai appris ça tout à l'heure, officiellement, on va dire. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, hein. C'est désespérant.
Ça ressemble bien à notre président. Il s'assure que les dés soient lancés là, pour donner un avis qui peut essayer de nous faire un peu plaisir. Mais on sait très bien que finalement, il est pour. Bon, non, on a cerné le personnage. Mais c'est pour ça qu'on ne croit plus en nos politiques non plus. Là. C'est en grande partie à cause de lui. Là.
Et après le feu vert des 27, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'envolera le 17 janvier prochain pour le Paraguay afin de signer le traité du Mercosur. La colère des agriculteurs, on vient d'en parler, la colère également des médecins en grève depuis le 5 janvier en métropole. Les médecins libéraux se sont donné rendez-vous dans quelques heures à Paris pour une manifestation nationale. Ils protestent contre diverses mesures du budget de la sécurité sociale et plus généralement la remise en cause de leur liberté d'exercice. Dans l'actualité ce soir également en métropole, cette nouvelle agression dans une prison. Trois surveillants de la prison d'Aix dans les Bouches-du-Rhône ont été violemment agressés par un détenu. Une attaque au ciseau perpétrée par un multirécidiviste âgé de 23 ans. L'une des victimes est hospitalisée dans un état grave, mais ses jours ne sont pas en danger. Les faits se sont produits dans un bureau du centre pénitentiaire. Stéphane Burguette pour Europe 1.
Un des agents a été blessé au niveau du cou avec une paire de ciseaux. Au niveau de la jugulaire, zone vitale, il a dû subir une intervention chirurgicale. Mais ses jours ne sont plus en danger. Le détenu, âgé de 23 ans, est coutumier du fait, réputé pour sa violence. Et encore un drame évité de peu, selon la représentante régionale Force Ouvrière, Cathy Fordy.
On est passé à un cheveu du drame, mais c'est quand même assez important comme incident. C'est un drame pour nous, puisque trois collègues de toucher. Quand même, trois collègues hospitalisés, tout le monde a été très choqué. C'est un drame quoi qui est arrivé encore. On a tous des détenus violents. Hein. Oui, ils peuvent passer à l'acte du jour au lendemain. Hein. À la minute près, ça peut arriver, voilà, malheureusement.
L'agresseur est incarcéré pour vol avec violence. Il était justement convoqué pour s'expliquer de violence sur son co-détenu, retrouvé le visage tuméfié le matin même. Il avait déjà été transféré d'autres établissements suite à des faits similaires de violence. Une enquête est ouverte désormais pour tentative d'homicide et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
À l'étranger, hommage aux victimes du terrible incendie d'un bar à Crans-Montana, la nuit du Nouvel An. Ce vendredi était un jour de deuil en Suisse, en mémoire des 40 personnes décédées, des 116 personnes blessées. Une cérémonie officielle était organisée dans une salle de spectacle dans la ville de Martigny, qui situe à une cinquantaine de kilomètres de Crans-Montana. Les deux propriétaires du bar, le Constellation, ont été convoqués par la justice. Si la femme Jessica Moretti a été laissée en liberté, son mari Jacques Moretti a lui été placé en détention préventive. L'actualité internationale encore et les États-Unis s'occuperont du Groenland de la manière douce ou de la manière forte. Les mots sont signés Donald Trump. Le président américain maintient le cap en réaffirmant sa volonté de prendre le contrôle du territoire arctique. Une priorité de sécurité nationale, indique Donald Trump. Et puis à l'étranger, enfin, le régime iranien est-il sur le point de s'effondrer? Les manifestations contre le pouvoir prennent de l'ampleur, une ampleur inédite. Manifestations monstres dans plusieurs grandes villes d'Iran. Des affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont fait une cinquantaine de morts. Le fils du Shah d'Iran tente même de s'imposer comme une alternative au régime. Donald Trump, de son côté, a menacé, vous savez, Téhéran, de frapper très fort en cas de répression. Des signaux positifs pour un changement de régime pour cet Iranien qui est installé en France depuis une quarantaine d'années et qui souhaite conserver l'anonymat.
Je pense qu'il y a une chance d'aboutir. Cette fois-ci, on peut aller au bout. Moins de massacres, parce qu'il y a l'appui des États-Unis et aussi de l'Israël. Et ce soutien-là, c'est très très important. C'est-à-dire que si les gens sont en train de se faire massacrer, il y a quelqu'un qui peut venir pour les sauver. Vous voyez ? Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas. Et puis, on a aussi un leader qui est déclaré, et puis que tout le monde accepte, la majorité qui accepte, hein. Qui acceptent. Donc finalement, les pays étrangers, ils n'ont pas à dire finalement, qu'est-ce que ça va devenir ce pays. On sait, parce qu'il a présenté un projet.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. 18h sur Radio Rythme Bleu, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive. On ira faire un tour du côté du Wentoro pour la finale de tennis. Et puis nous parlerons également météo.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de ce journal avec l'actualité sportive. Dans un instant, nous irons sur les installations de la Ligue de tennis au Wentoro, où nous avions quelques difficultés à joindre Mickaël Juneski, mais je l'entends dans mon casque, il est là. Mickaël, c'est la grande finale de ce BNC Tennis Open 2026.
Absolument, ça y est, vous me recevez 5 sur 5, et oui, hein. Ce duel, vous le savez, entre Arthur Géa et Youris Rodionov qui est en cours. Voilà, on rappelle les enjeux. Évidemment, le métropolitain Arthur Géa, 21 ans, actuel 241e à l'ATP, qui n'était d'ailleurs pas le français qu'on attendait à ce stade de la compétition ici cette semaine, mais il pourrait bien tenter d'écrire la plus belle page de sa jeune carrière en cas de victoire ce soir sur sa première finale d'un challenger en carrière. Il deviendrait le 5e français seulement à s'imposer dans l'histoire de ces internationaux de Nouméa, 2 ans après Arthur Cazot, aussi après Adrien Manarino, Vincent Milot, Jérémy Chardy ou encore Gilles Simon. Pourquoi ne pas aller inscrire son nom sur le célèbre escalier, vous le savez, qui mène jusqu'au cours Wanaro Ngodrella. Chaque marche voit l'inscription du gagnant de l'Open de Nouvelle-Calédonie. En tout cas, le droitier solide, également surprenant avec son revers à deux mains de fond de cours, s'est mis le public calédonien dans la poche, vous l'avez entendu derrière moi. Il est largement encouragé à chaque point. Il a remporté le premier set 6-3. Il est actuellement mené sur le score de 4-2 dans le deuxième set. On ne s'y trompe pas, c'est tout de même bien lui, hein, le chouchou des supporters aujourd'hui. Et je vous laisse apprécier derrière moi la hola, évidemment, chaque fois que Arthur Géa arrive à prendre un point. Évidemment, ça s'est vu dès le premier set. Hein. Il a fait le spectacle, il a engrangé de la confiance pendant que son adversaire, Youris Rodionov, semblait tout simplement perdre pied. C'est ainsi que Arthur Ngea a gagné le premier set. Oui, mais en face, c'est un sérieux client. Le 5e joueur le mieux classé du tournoi, l'Autrichien, donc Youris Rodionov, 26 ans, qui dans le deuxième acte a livré une solide performance à l'image de toute cette semaine en Nouvelle-Calédonie sur les cours du Wentoro. Il avait notamment déjà fait tomber la tête de série numéro 1 jeudi soir, l'Australien Jordan Thompson. Il avait atteint, on le rappelle, les demi-finales en 2025 ici même. Rodionov au service puissant, 195e joueur à l'ATP qui a véritablement appuyé sur la machine à gagner dans le deuxième acte, à un moment donné, pour avoir l'avantage de 4-1. Sur le papier, il est clairement donné favori, mais sur le court, les cartes sont rebattues. Il était passé à l'offensive hein, dans cette deuxième manche, on le disait, avec des coups appliqués pour aller chercher, évidemment, pour lui, c'est ce qu'il veut, un troisième acte, tenter de décrocher le titre. Mais c'est tout un symbole. L'avant-dernier jeu qui s'est disputé, interminable, a permis à Arthur Géa de nouveau de rappuyer sur la marche en avant pour empêcher Rodionov de faire un set express, si j'ose dire, tant il semblait avoir repris l'avantage. Et aujourd'hui, à ce moment-là précis, tout semble être sur le point de bascule. Le public, évidemment, qui peut changer la donne, de même que la météo. Hein, tout le monde guette ce soir scrupuleusement le vent, la chaleur, la crainte de la pluie, hein, évidemment, qui peut faire bouger le mental de chaque joueur et le match ce soir. La fatigue aussi commence à se faire ressentir hein, sur les organismes. Hein. Je rappelle qu'on joue cette rencontre depuis 16h30 cet après-midi. Quant aux fans de tennis, eux, ils ne boudent pas leur plaisir hein, pour l'instant à la faveur d'un petit rayon de soleil en début de soirée sur le Wentoro, tant que les nuages restent à l'écart. Évidemment, la cerise sur le gâteau, ce serait une victoire française sur ce challenger de Noumea. Désormais, on assiste à une remontada en quelque sorte dans le deuxième acte du français Arthur Géa. C'est ce que tout le monde souhaite. Le score désormais 4 jeux partout dans le deuxième set. À voir si nous irons jusqu'à un troisième acte décisif. En direct de ces internationaux de Nouvelle-Calédonie, Mickaël Juneski, RRB.
Merci Mickaël pour ce point plus que complet sur cette finale du BNC Tennis Open 2026. Le sport en Calédonie encore. Et il y avait de l'athlétisme aujourd'hui avec la Coupe de Dimbéa. Une opportunité notamment pour les plus jeunes de poursuivre leur préparation en vue des prochains rendez-vous régionaux, des rendez-vous qui approchent à grands pas.
Moi je m'appelle Warren, ma catégorie c'est moins de 65, j'ai 13 ans, pour améliorer nos pairs, tout ça, et devenir plus fort. En plus, en avril j'ai une compète aux Océania à Samoa. Pour moi, le but c'est plus de tirer des barres lourdes pour être... le podium, être premier, tout ça.
Je m'appelle Dimitri, je suis dans la catégorie à moins 90 kilos. J'ai 13 ans. C'est important pour pas se relâcher. Et c'est bien aussi de faire les compétitions pour apprendre de ses erreurs. Parce que ici, on n'est pas là pour gagner ou pour, on est là pour participer ici.
Moi, je m'appelle Sako Mathis, à Lozio, et je suis en plus de 110 kilos. Moi, j'ai 15 ans. Ça permet de garder la forme surtout. Et surtout que là, on prépare un stage la semaine prochaine à Samoa. Ça permet de voir notre niveau avant d'y aller, quoi. Et de voir notre niveau après le stage. On prépare déjà le choix championnat des Océaniens et aussi pour moi peut-être les championnats de France encore. J'espère si jamais je fais du bon travail faire les championnats d'Europe.
Une coupe de Dimbéa qui était organisée sous la Mimi Castex par le Barbel Club dont Justine Guillaumard est la secrétaire.
Les grandes vacances scolaires, c'est aussi l'occasion de se réunir pour des belles compétitions, donc pas de repos pour les braves. C'est vrai que déjà pour lutter contre l'oisiveté, il y a eu des stages vacances dans les différents clubs d'haltérophilie là, pendant les grandes vacances. Ils ont quand même pu s'entraîner avec leur coach et puis entre eux. Cette compétition, ça leur permet de tester leur évolution, leur progression sur ces dernières semaines. On remercie tout particulièrement bien sûr la ville de Dimbéa qui nous a mis à disposition la halle Michel Castex toute cette journée.
Les 26 athlètes sont engagés ce samedi dans cette Coupe de Dimbéa d'haltérophilie, la première compétition de l'année pour la discipline. Venons-en au sport sur la scène nationale et internationale avec du football. Et ce soir et demain matin, les premiers 16e de finale de la Coupe de France. L'AS Monaco qui retrouvera le club d'Orléans, deux équipes qui s'étaient affrontées en finale de la compétition, c'était en 1980. L'US Orléans évolue désormais en national. Match à suivre à partir d'1h30 du matin. Il y aura aussi un choc entre pensionnaires de Ligue 1. Angers accueillera Toulouse. On signalera encore que les Lensois, actuellement leaders du championnat de France de Ligue 1, seront sur le terrain de Sochaux, équipe de national. Un match à suivre à partir de 7h. Du football encore avec les derniers quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Demain matin, à 3h, l'Algérie affrontera le Nigeria pour tenter de rejoindre le Maroc dans le dernier carré. À 6h, l'Égypte fera face au tenant du titre, la Côte d'Ivoire. Les vainqueurs de cette rencontre retrouveront le Sénégal en demi-finale. Et puis quelques mots de rugby avec la suite de la troisième journée de la phase de poule de la Champions Cup. Après la défaite aujourd'hui de Castres à domicile face à Bath, 43-20. D'autres clubs français seront en lice ce soir et demain matin. L'AS Clermont accueillera Glasgow pour le compte de la poule 1 à partir de 2h15 du matin. Le Stade Rochelais croisera le fer avec les Anglais de Leinster pour le compte de la poule 3 à partir de 4h30, alors que l'Aviron Bayonnais ira défier Leicester, dès 7h. Dans la poule 4, la section paloise sera en déplacement chez les Gallois de Clanéclie à partir de 7h. On termine ce journal avec la météo.
Socafort Peinture vous présente la météo. Socafort Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soitil, Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socafort Peinture, c'est à Ducos.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec une vigilance jaune, forte pluie orage pour des averses parfois fortes, voire orageuses sur toute la côte est jusqu'à Poum cette nuit et demain, ainsi que de Vaux à Koumac demain après-midi. Cette nuit, des averses fortes et parfois orageuses se produiront et pourront donner de forts cumuls sur la façade est, ainsi que plus localement au Loyauté et sur l'île des Pins. Sur l'ouest, même si quelques gouttes pourront déborder du relief en soirée, le temps sera plus sec. Le vent d'est-nord-est soufflera de 15 à 20 nœuds, localement autour de 20 nœuds sur la pointe nord, et sur l'ouest il mollira entre 5 et 10 nœuds, sauf dans certaines vallées où il sera accéléré entre 10 et 15 nœuds. On termine avec les minimales qui seront plus homogènes et qui demeureront bien au-dessus des normales et varieront entre 24 et 26 degrés. Voilà pour le bulletin météo, Lionel.
Merci Ismaël, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Il sera disponible en réécoute d'ici quelques instants sur notre site internet, le www.rrb.fr. Passez une excellente soirée. J'aurai grand plaisir à vous retrouver tout à l'heure à 19h pour un nouveau point sur l'actualité.